Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Mathieu Davina, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle à nos auditeurs que vous faites partie du centre de recherche du château de Versailles. Vous êtes spécialiste de l'histoire de l'intendance du château de Versailles. Vous avez notamment écrit « Les vallées sous Louis XIV », un ouvrage paru aux éditions Perrin. Et je renvoie d'ailleurs nos auditeurs à l'émission que nous avons enregistrée sur le sujet ensemble. Alors nous enregistrons cette émission du château de Versailles et nous partons à la découverte aujourd'hui après avoir vu le grand appartement. Nous partons à la découverte de l'appartement dit d'étiquette. Nous sommes là, au cœur du château de Versailles.
Oui, nous sommes ici en haut de l'escalier de la reine, bizarrement, pourrait-on dire, puisque nous allons entrer dans l'appartement d'étiquette du roi. Alors pourquoi en haut de l'escalier de la reine? Il faut savoir que Louis XIV décide de s'installer à Versailles de façon définitive le 6 mai 1682 et il s'installe dans son château au côté nord. Et la partie sud était dédiée à la reine. Et lorsque Marie-Thérèse meurt assez rapidement, c'est-à-dire le 30 juillet 1683, le roi en profite pour annexer toute la partie sud dévolue normalement à la reine au niveau de la cour de marbre. Donc l'appartement du roi occupe anciennement l'appartement intérieur de la reine. Et nous allons entrer maintenant vraiment dans ce qui était l'appartement du roi, qui est vraiment au-delà de l'escalier de la reine.
À gauche de cet escalier, Mathieu, se situe une loggia.
Nous sommes au niveau de la loggia de l'escalier de la reine. Et ce qui est intéressant ici, c'est vraiment que nous sommes devant le palier de l'appartement de Madame de Maintenon, petit appartement de 4 puis 5 pièces, c'est-à-dire l'appartement de la seconde épouse Morganati, qui est l'épouse secrète de Louis XIV, qu'il a épousée le 9 octobre 1683. Nous sommes dans un appartement vraiment de plein pied, puisque juste après cette loggia, nous pénétrons dans l'appartement du roi.
Première grande salle de cette visite de l'appartement d'étiquette, il s'agit de la salle des gardes.
Oui, alors ce qui est intéressant dans cet appartement, c'est vraiment de voir la progression dans la richesse du décor. On est ici dans la salle des gardes du roi, qui est d'apparence assez simple, avec un plafond comme le reste de l'appartement qui n'est pas peint, des boiseries simples, moulures dorées. En revanche, on a également un seul tableau de Paroissel qui a une histoire assez anachronique puisqu'on appelle ce tableau la bataille de l'Euse. Or, la bataille de l'Euse date de 1691 et ce tableau a été commandé en 1689. Et c'est pourtant les premières descriptions de Versailles dès 1703, André Félibien, qui évoque ce tableau en parlant de la bataille de l'Euse et commet déjà un anachronisme. Alors pourquoi ce tableau? On aperçoit dessus les gardes du corps du roi en livrée bleue qui s'exposaient énormément lors des guerres du roi et le roi a voulu leur rendre hommage avec ce tableau. Alors cette salle, il faut l'imaginer, donc salle des gardes du roi, il faut imaginer ici 32 gardes du corps en permanence, 8 de chaque compagnie, c'est-à-dire qu'il y avait 4 compagnies de gardes du corps du roi, et il y en avait 8 en permanence qui se relayaient 24 heures sur 24 dans cette pièce. On avait des paravents derrière lesquels on installait des lits de camp, des lits de veille, où les gardes pouvaient se reposer pendant que les autres gardes montaient la garde.
Cette notion de garde du corps est très importante parce que Versailles est, là encore contrairement à une idée reçue, un lieu très ouvert.
Oui, c'est très très ouvert, donc on peut apercevoir le roi à Versailles. Mais alors il faut y savoir que le roi est toujours encadré par un carré de 8 gardes du corps et de son capitaine des gardes, c'est-à-dire qu'il circule en permanence encadré par ses gardes du corps. Alors il y a des lieux plus ou moins ouverts, l'appartement d'étiquette fait partie de ces lieux, étonnamment, c'est-à-dire que quiconque est bien habillé, c'est-à-dire qui porte chapeau et épée, peut venir à Versailles à condition donc de ne pas être dans la pièce où se trouve le roi. Mais lorsque le roi n'y est pas, on peut y compris accéder jusqu'à sa chambre. Alors on ne peut pas accéder au petit appartement intérieur, c'est-à-dire vraiment les pièces les plus privées, mais ces pièces, quiconque peut y accéder, y compris donc dans la chambre, et quand on se présente dans la chambre, on doit saluer le lit comme si le roi y était.
La journée du patrimoine durait 365 jours par an, donc.
Tout à fait. C'est comme si aujourd'hui, on imaginait aller à l'Élysée tous les jours visiter la chambre du président.
Une des particularités de cette pièce, c'est qu'elle possède aujourd'hui deux chaises à porteurs.
Oui, alors c'est vraiment aussi pour symboliser le fait que les dames titrées, c'est-à-dire essentiellement les duchesses, avaient le droit de monter ici jusqu'en chaise à porteurs. C'est-à-dire qu'elles pouvaient circuler jusqu'ici dans le château en chaise à porteurs. Bon, après, elles déposaient, et c'était aussi le lieu ici où l'on déposait les chaises, et les dames continuaient à pied par la suite.
Oui, donc il ne s'agit pas d'un élément de décoration, mais vraiment d'une réalité historique. On venait jusqu'ici. Ces chaises étaient portées par combien de personnes ?
Ces chaises étaient portées par 4 personnes, une de chaque côté de la chaise, au niveau des barres qui passaient de chaque côté.
À l'heure où nous visitons Versailles, Mathieu, les volets sont fermés. Et c'est une des particularités de Versailles aujourd'hui, c'est que pour garder le lieu vivant, on ouvre et on ferme les volets tous les jours.
Aujourd'hui, nous sommes un lundi, c'est-à-dire jour de fermeture du château. Mais sinon, tous les soirs, les volets sont fermés et réouverts le matin, vraiment pour donner une vie à ce qu'on veut considérer comme une maison, Versailles comme une maison.
Il y a combien de personnes qui travaillent au château de Versailles aujourd'hui ?
Il y a environ 900 ou 1000 personnes, suivant les saisons, qui travaillent actuellement au château.
Au temps de Louis XIV, plus de 4000 personnes étaient ici.
Alors il y avait 4000 personnes réparties sur l'ensemble des sites, c'est-à-dire à la fois sur le corps même du château, mais également au grand commun et les différentes dépendances en ville, c'est-à-dire grande écurie, petite écurie, hôtel du grand maître. Mais on dénombre à peu près 4000 personnes attachées au service de la cour, effectivement, à la fin du règne de Louis XIV.
Après la salle des gardes, Mathieu Davina, nous entrons dans l'antichambre du grand couvert.
Oui, nous sommes ici dans l'antichambre du grand couvert et comme je vous le disais, vous voyez que le décor s'enrichit vraiment au fur et à mesure qu'on se dirige vers la chambre. Précédemment, vous aviez des simples boiseries peintes. Maintenant, vous avez des boiseries dorées avec des moulures beaucoup plus riches, des frises beaucoup plus ouvragées. Beaucoup plus de tableaux, également de Paroissel, où on a différentes batailles représentées. Vraiment un décor de plus en plus riche. Alors cette antichambre servait, on l'a dit, d'antichambre du grand couvert. C'est-à-dire que c'est ici que le roi recevait pour son grand couvert, c'est-à-dire où il soupait, c'est-à-dire qu'il dînait devant l'ensemble de la famille royale avec les fils et petits-fils de France, qui avaient le droit d'être assis à sa table. Alors il faut imaginer une longue table dressée le long de la cheminée, et le roi était seul assis le long de ce qu'on appelait le long bout, tandis que le reste de la famille royale se répartissait sur les deux bas-bouts, et le roi était seul dos à la cheminée, vraiment, bon, pour vraiment une question de confort. Et il faut imaginer l'ensemble de la cour, du moins l'ensemble de la cour qui avait été présentée, debout, en train de regarder le roi manger.
On pouvait parler au roi ?
Alors non, pas lors du grand couvert, on pouvait parler au roi uniquement s'il vous adressait la parole. Ça, c'est vraiment la règle. Le roi est accessible, il y a vraiment une tradition française où le roi se veut accessible à ses sujets, mais cette accessibilité est vraiment limitée puisque pour la haute noblesse, pour l'aristocratie, c'est-à-dire les personnes éduquées, on a le droit de parler au roi uniquement s'il vous adresse la parole. En revanche, on pardonne à quelqu'un du peuple qui ne connaît pas les codes de l'étiquette et qui s'adresse le premier au roi.
Nous l'avions vu au cours de notre visite du grand appartement, et il y avait des tableaux représentant des thèmes mythologiques. Cette fois, vous nous avez dit que ce sont des thèmes guerriers qui concernent directement le règne de Louis XIV uniquement ?
Non, là on est vraiment dans des représentations de bataille, mais qui font encore référence à l'Antiquité. On a vraiment des allégories guerrières de l'Antiquité. Alors dans cette salle, je vous le disais, c'est là où le roi soupe en public. Et je vais vous passer le détail parce que ça serait vraiment trop long, de tout le cérémonial du service à la française. Il faut imaginer vraiment des plats qui arrivent du rez-de-chaussée du château, puisque les cuisines du roi sont vraiment dans le château, au contraire des autres cuisines qui sont dans le grand commun. Pour des questions de sécurité, la nourriture du roi est préparée vraiment dans l'enceinte même du château. Et entre le moment où les plats, les 45 plats, parce que 45 plats étaient présentés au roi, quittent le rez-de-chaussée et arrivent ici, il y a à peu près un quart d'heure, donc on peut imaginer, ça passe entre différents officiers qui chaque fois goûtent devant la personne à laquelle ils donnent son plat pour montrer que le plat n'est pas empoisonné. ça finit par arriver avec le grand maître d'hôtel qui présente les plats au roi. Donc un cérémonial vraiment très très impressionnant. Alors on peut imaginer que les plats étaient froids, mais dans l'entre-deux-portes qui nous sépare de la salle des gardes de cette antichambre, il y avait ce qu'on appelait des réchauffoirs pour justement éviter que les plats n'arrivent froids sur la table du roi. Il n'y avait pas non plus de verre sur la table pour les questions d'empoisonnement, puisque quand le roi demandait à boire, on disait « à boire pour le roi », le grand échanson arrivait, présentait le verre qui était toujours couvert pour pas qu'on ne puisse glisser du poison dedans, et on servait à boire pour le roi. Donc tout ça devant toute la cour qui regardait, je vous disais, debout, à l'exception des duchesses, encore une fois, qui avaient le droit à un ployant, c'est-à-dire un pliant. Ce sont des tabourets en X, qu'on appelle les tabourets en X, et elles avaient le droit d'être assises pour regarder le roi manger.
On imagine, Mathieu Davina, qu'après plus de 50 ans passés à Versailles, il doit y avoir de nombreuses anecdotes au cours de ces soupers, de ces dîners.
Sous Louis XIV, il y a notamment un événement qui intervient en 1691. On avait volé dans le grand appartement du roi ce qu'on appelle les franges des rideaux, les franges d'or. Et en 1691, le roi est à table ici et il reçoit de l'assistance un énorme paquet qui arrive vraiment sur sa table comme avec fracas. Le roi ouvre le paquet, il dit « je crois que ce sont mes franges ». Il y a un petit mot qui accompagne le paquet qui est adressé à Bontemps, en fait, le premier valet de chambre du roi, et qui est également l'intendant du château, et donc qui est en charge notamment de la sécurité intérieure. Il y a un petit mot qui dit « Bontemps, fais mes baise-mains au roi, la peine passe le profit ». Alors évidemment, on fait immédiatement fermer toutes les pièces, mais on n'a jamais retrouvé la personne qui a jeté ce paquet sur la table du roi. Le roi, qui n'accuse absolument pas Bontemps, dit que c'est certainement l'idée d'un fol qui aurait fait ça. Malgré toutes les perquisitions qui ont été faites, on ne retrouve pas. Alors certains ont pensé que c'était le fait d'une princesse ou vraiment quelqu'un qui était très très proche pour pouvoir se permettre de faire ce genre de choses, et que c'était pour se venger ou faire des petites mesquineries à Bontemps, qui vraiment avait un pouvoir énorme ici au sein du château.
Oui, sur les valets, au temps de Louis XIV, nous renvoyons nos auditeurs à votre ouvrage paru chez Perrin. Après l'antichambre du grand couvert, nous entrons dans un salon central, le salon de l'œil de bœuf.
Nous sommes dans le salon de l'œil de bœuf qui a pris son nom simplement à partir de 1701. Bon, évidemment en raison d'une ouverture en forme d'œil de bœuf pour donner de l'éclairage à cette pièce, pièce qui est derrière la galerie des glaces. Auparavant, nous étions ici, il y avait deux pièces. Ce n'est qu'en 1701 que Louis XIV a décidé d'en faire une seule. Il y avait tout d'abord une pièce qui était vraiment à l'extrémité du côté sud, qui était ce qu'on appelle l'antichambre des Bassano. Et la pièce qui se trouve vraiment sur la cour de marbre, la partie sur la cour de marbre est proche de l'actuelle chambre de Louis XIV, qui était la chambre précédente de Louis XIV, qui était la chambre de 1684, dans laquelle le roi a dormi de 1684 à 1701. Alors pourquoi le roi décide de réunir ces deux pièces en une seule ? Deux raisons à cela, dont une prévaut vraiment sur l'autre, c'est que lorsque le roi se lève en public, on en parlera lorsqu'on sera tout à l'heure dans la chambre, il y a vraiment beaucoup de monde. Et avant que les gens pénètrent dans sa chambre, on a vraiment la foule qui attend dans l'antichambre, qui était auparavant l'antichambre des Bassano. Donc j'ai dit l'antichambre des Bassano, c'est en raison en fait, des peintres, les Bassans, qui ornaient les murs de cette antichambre. La pièce étant devenue trop petite, le roi a préféré faire à la fois de sa chambre et de l'antichambre une seule et même chambre et de déplacer sa chambre au centre du château, ce qui tombait vraiment bien puisque du coup la chambre est à l'épicentre, vraiment dans l'axe est-ouest du château, d'où la naissance de cette antichambre.
Donc l'épicentre, nous le verrons tout à l'heure avec la chambre, mais l'épicentre n'était pas calculé.
Non, ce n'est pas calculé. Là, c'est vraiment l'usage qui a fait qu'on est parti vraiment au centre du château. Toujours pour continuer vraiment la thématique du décor, ici, on atteint vraiment une richesse dans le décor, notamment avec une frise d'enfants jouant. Et on est vraiment dans une richesse avec des pilastres, des boiseries dorées, toute une décoration très, très, très riche. et avec cette frise où on a clairement les ordres de Louis XIV à Mansart, où il demande vraiment « je veux de l'enfance répandue partout ». Alors nous sommes en 1700-1701, le roi a 63 ans, il a déjà 3 petits-enfants. À l'époque, c'est considéré comme un vieillard. Et son petit-fils est né, le duc de Bourgogne, qui est le père de Louis XV, vient de se marier avec la duchesse de Bourgogne en 1697, et ça redonne un peu de jeunesse, d'où vraiment cette idée de frise d'enfants joueurs.
Il y a également un tableau avec de nombreux enfants.
Oui, on a un tableau qui est très très célèbre, qui représente la famille royale par Jean d'Ocret en Dieu de l'Olympe. On a vraiment toute la famille royale avec encore des anachronismes puisque le peintre a voulu représenter l'ensemble de la famille royale, bien qu'il y ait notamment Anne d'Autriche, la mère du roi et de son frère Philippe d'Orléans qui est également représentée. Donc Anne d'Autriche qui est au milieu mais qui est morte en 1666, mais que le roi a tenu quand même à représenter sur ce portrait de famille. Il y a Henriette d'Angleterre qui est l'épouse du frère du roi, Henriette de France, sa mère, etc. Donc tout un portrait de la famille royale allégorique en Dieu de l'Olympe.
Alors vous le disiez tout à l'heure, nous sommes près de la galerie des glaces qui jouxte donc le salon de l'œil de bœuf et il y a également d'immenses glaces qui hantent ce salon.
Plusieurs glaces, certainement pour répondre au décor de la galerie des glaces, mais également donc plusieurs tableaux de Mignard, notamment le portrait de Mignard, un portrait équestre de Mignard de Louis XIV, un de son neveu, le futur régent, et différents bustes très très importants, un buste de Louis XIV par Antoine Coisevaux, un buste de Louis XV par Goy et un buste de Louis XVI par Houdon.
Nous entrons, Mathieu, dans la chambre du roi, donc qui est aujourd'hui le cœur du château de Versailles, une chambre dont on vient de voir qu'elle a été déplacée.
On est au niveau ici, sous le règne de Louis XIII, qui était le débouché de l'escalier central. Par la suite, c'est devenu un salon vraiment pour partager d'un côté au nord l'appartement du roi et au midi l'appartement de la reine. Par la suite, c'est devenu le salon où le roi s'habille, puisque lors de la chambre de 1684, qui était située dans la pièce précédente, une partie de la pièce précédente de l'œil de bœuf, le roi commençait par se lever dans sa chambre et venait terminer s'habiller ici, dans le salon central, où on appelait le salon où le roi s'habille. Et ce n'est qu'en 1701 que Louis XIV fait aménager cette pièce dans son ancien salon.
Est-ce à dire que la décoration de la pièce a évolué avec le temps ?
Oui, elle a évolué, mais ici on est vraiment dans un décor 1701. On a encore des pilastres qui évoquent l'ancien salon de 1684. Il faut imaginer derrière les tapisseries, les arcades qui conduisaient directement à la galerie des glaces. Vraiment décor finalement choisi par Louis XIV et qui est vraiment le décor tel qu'il l'avait voulu.
Une des particularités de cette chambre, Mathieu, c'est que l'on peut y voir deux cheminées.
Oui, alors ces cheminées, en fait, datent de 1738, de l'époque de Louis XV. Il faut savoir qu'à l'époque de Louis XIV, il n'y avait qu'une seule cheminée, puisque le roi n'était absolument pas frileux. Il ouvrait en grand ses fenêtres en plein hiver aux grandes dames de Madame de Maintenon, qui, elle, était très, très frileuse. Et comme vous savez, il travaillait tous les soirs dans son appartement. Et il se souciait assez fort peu de sa seconde épouse, puisqu'il ouvrait les fenêtres, y compris chez sa nouvelle femme. Dans cette chambre, donc je vous le disais, c'est là où Louis XIV en fait dormait et se levait en public vraiment tout le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas, c'est plus qu'une chambre de parade, c'est-à-dire que c'est vraiment là où le roi dort. Il se lève ici en public, donc en gros on peut évoquer le lever, il y a vraiment trois temps si on veut aller très très rapidement. Il y a le moment où les gens ont droit de rentrer lorsque le roi est encore dans son lit. Une seconde entrée où les gens peuvent le voir en robe de chambre sur son fauteuil. Et finalement, un moment, le dernier moment, où les gens peuvent le voir alors qu'il est déjà habillé et qu'on est en train de le peigner. Dans cette chambre, c'est aussi là où Louis XIV donc, est mort le 1er septembre 1715. Et il avait demandé au régent, mon futur régent, d'emmener le petit Louis XV à Vincennes parce qu'il trouvait que l'air était beaucoup plus sain à Vincennes qu'à Paris. Parce qu'on sait que lorsqu'un roi meurt, un nouveau roi, du moins pas un roi meurt, lorsque quelqu'un meurt, le roi ne peut pas être en présence de la mort. Donc le Louis XV devait quitter le château. Il part à Vincennes uniquement quelques temps puisque assez rapidement Philippe d'Orléans le ramène à Paris. Et ce n'est qu'en juin 1722 que Louis XV, à 12 ans, demande à revenir à Versailles, où il a envie de revenir à Versailles. Et lorsqu'il revient ici à 12 ans, c'est aussi dans cette chambre qu'il dort.
Alors vous évoquez la mort, et nous sommes précisément dans une chambre. On ne dormait pas allongé à l'époque, puisque le fait d'être allongé évoquait cette mort.
Oui, on dormait assis, puisque la position allongée représentait vraiment la position du mort. Donc, d'où l'impression des fois de la petitesse des lits, bon, ce qui n'est pas le cas ici dans la chambre du roi. Elle ne paraît pas comme ça, mais la pièce fait quand même 88 mètres carrés. Et pour revenir à Louis XV, qui dort dans cette chambre, il y dormira jusqu'en 1737, date à laquelle il trouve que vraiment la chambre est vraiment trop trop froide. Il se fera aménager dans l'ancien appartement de collectionneur de Louis XIV sa propre chambre, et il fera rajouter l'année suivante, en 1738, il fera détruire l'ancienne cheminée de Louis XIV et il fera installer deux cheminées identiques. Mais malgré cela, il faut imaginer quand même Louis XV en robe de chambre tous les matins, traversant le cabinet du conseil pour venir se lever devant son public, devant le public de la cour, dans cette chambre, tous les matins, cette chambre qui restera dite la chambre de Louis XIV jusqu'à la fin de l'Ancien Régime.
Dernière pièce de notre visite, il s'agit du cabinet du conseil où se décident les grandes affaires de l'État.
Oui, nous sommes dans le cabinet du conseil, également restauré sous Louis XV, puisque au temps de Louis XIV, on avait ici deux pièces. Vraiment la pièce qui était contiguë à la chambre du roi, qui était vraiment le cabinet du conseil, et la pièce qui faisait suite, qu'on appelait le cabinet des thermes ou cabinet des perruques, c'est-à-dire là où on entreposait l'ensemble des perruques du roi, puisqu'il faut savoir que le roi changeait en moyenne au moins 5 fois par jour de perruques. Donc, cabinet du conseil agrandi en 1755, par les soins de Louis XV, avec de superbes boiseries, et vraiment lieu de pouvoir par excellence, puisque, autre idée reçue, il faut quand même savoir que le roi travaille tous les jours, y compris le dimanche, puisqu'il y a conseil d'État, vraiment plusieurs jours par semaine, et c'est ici qu'il reçoit ses ministres pour ce qu'on appelle le travail du roi.
Ce cabinet du conseil, Mathieu, jouxte, là encore, la galerie des glaces, et donne accès, parallèlement, à bien d'autres pièces.
Oui, alors ici, autant tout cet appartement d'étiquette, malgré le caractère très officiel et lieu de pouvoir qu'il représentait, pouvait être traversé par l'ensemble des personnes, à condition que le roi ne fût pas présent. En revanche, au-delà de cette pièce, c'est-à-dire en face de la porte qui conduit au niveau de la Galerie des Glaces, on entrait vraiment dans l'appartement intérieur du roi, appartement de collectionneur au temps de Louis XIV, transformé au XVIIIe siècle par Louis XV puis Louis XVI, pour des pièces vraiment, pour le coup, ultra privées et où personne ne pouvait pénétrer sans avoir été sérieusement invité.
Eh bien, merci beaucoup, Mathieu, pour cette présentation de l'appartement d'étiquette. Merci, à très bientôt et restez à l'écoute de Canal Académie.